Acte 13, versets 4 à 13. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé l'île, toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent ensuite à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc nous avons ici Barnabas et Saul, ou Paul, qui sont en train d'annoncer la parole de Dieu partout où ils passent. Et ils arrivent ici sur l'île de Chypre, et plus précisément dans la ville de Paphos. Et là, ils vont rencontrer un homme, le proconsul Sergius Paulus. On a lu ensemble que cet homme était un homme intelligent, donc certainement un érudit, qui connaissait beaucoup de choses. Et on voit que finalement, son intelligence ne l'a pas amené à s'éloigner de Dieu, mais au contraire, à vouloir connaître Dieu, rencontrer Dieu. Dieu nous a donné une intelligence et il y a deux manières d'utiliser son intelligence. On peut soit s'en servir contre Dieu pour le rejeter, pour le nier, pour essayer de s'opposer à lui. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ont fait dans ces deux derniers siècles. Siècle du progrès, siècle de la science. On veut se servir de son intelligence pour le rejeter ou on peut se servir de son intelligence au contraire pour le chercher. Le connaître, vouloir avoir une relation avec lui, chercher la vérité. Et on voit que Sergius Paulus avait dans sa présence un magicien nommé Bar-Jésus. C'était un juif, c'était un faux prophète. Ça signifie que il prophétisait, il annonçait des choses, il disait parler de la part de Dieu, il annonçait peut-être l'avenir, il osait s'avancer en annonçant des choses qui venaient du ciel. Aujourd'hui, quand on entend le mot « magie », ça renvoie tout de suite à Harry Potter. Ah, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas au fait des choses. Vous demandez aux enfants, mais bien sûr. Harry Potter, un bon, gentil magicien. C'est un peu ce qu'on veut vendre aux enfants aujourd'hui. Être un bon, gentil magicien, c'est formidable. Donc, on est en train de montrer un peu aux enfants, mais finalement, ce genre de magie, c'est désirable, c'est bien, c'est bon, on peut faire du bien même avec. Et les adultes se disent, de toute façon, c'est des balivernes. Donc, ça leur fera pas de mal, ça les fait rêver un petit peu. Mais on voit que Dieu parle de la magie dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, il en parle et il montre que des hommes et des femmes ont fait des actes de magie. Et Dieu a donné un commandement explicite en ce qui concerne la magie. Regardez Deutéronome 18, verset 10. 18, verset 10 à 13. Il est écrit ici « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Regardez, même on peut lire au verset 14, « Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. » Et dans ce commandement, Dieu trace clairement la ligne entre ce qui est mauvais, ce qui est néfaste, ce qui fera vraiment du mal à l'homme, ce que Dieu veut, sa volonté. Et on voit que toute activité occulte, tout acte qui fait appel à des puissances invisibles, à l'au-delà, est condamné par Dieu. Et Dieu nous dit que bien dans le même sac, il y a l'astrologie, il y a la divination, il y a le fait de prier des morts hein, ou d'invoquer des morts. Tout ça, c'est dans le même sac. Tout ça, c'est un contact avec l'au-delà qui est néfaste, qui fait du mal à notre âme. On peut tout l'englober en disant c'est l'occultisme. Et donc, ce magicien, bar Jésus, là, c'est pas qu'il était en train de faire des tours de prestidigitation, mais c'est qu'il était vraiment occulte. Il était impliqué dans de l'occultisme. Quand on vit dans notre monde moderne, on se dit, mais c'est inexistant, ça. On ne le voit pas. Hein? Quand on va au travail, on fait les choses de la vie courante, on va acheter des choses dans les magasins. Mais si on va dans des endroits spécifiques, si on achète des livres particuliers, si on rencontre des personnes spécifiques, alors là, on s'aperçoit que, ben oui, c'est toujours là, ça existe bien, c'est autour de nous. Et on voit que l'occultisme, c'est une réalité dont on ne peut pas faire abstraction. Dieu en parle dans les Écritures. Si on va en Afrique, ou si on va dans des îles, ou en Amérique du Sud, eh bien là, on va se retrouver en contact avec l'occultisme, qui est beaucoup plus palpable, beaucoup plus présent, hein, qui n'a pas été, repoussé par toute cette intelligence hein, qui dit que, eh bien, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de choses spirituelles hein, et qu'il ne faut surtout pas penser à ces choses. Là-bas, tout le monde croit en Dieu et aussi tout le monde croit en diable. Et donc, il y a des personnes hein, qui font beaucoup d'occultisme et on voit bien, il y a les effets dans des personnes qui vivent des sorts, qui vivent des maladies, qui vivent des choses terribles. On sent bien que l'occultisme est vraiment là-bas. Et elle était aussi ici à Paphos et elle était, cet occultisme était dans la présence de Sergius Paulus. Et on va voir dans ce texte d'abord qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a un vrai combat. On va voir ensuite que celui qui fait le choix des ténèbres plutôt que la lumière, il est plongé dans des ténèbres qui sont plus épaisses, plus denses. Et on voit ensuite dans ce texte que finalement la lumière triomphe sur les ténèbres. Alors d'abord, il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Dans ce récit, on voit un homme qui a soif de la vérité. Verset 7, il est dit « Sergius Paulus fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. » Donc cet homme intelligent a le désir d'en savoir plus sur la vérité des Écritures. Il veut entendre les paroles que les apôtres ont reçues, la parole de Dieu. Il veut entendre le message qui est contenu dans la Bible. Finalement, il veut s'approcher de la lumière de l'Évangile. Mais on voit, verset 8, « Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. » Et on voit qu'il y a une opposition ici des ténèbres contre la foi de l'Évangile. Élimas ne voulait pas que le proconsul puisse écouter librement l'Évangile. Il voulait empêcher cela. Et il faut qu'on soit sûr d'une chose, c'est que derrière Élimas, eh bien, il y avait aussi le diable. Et quand eh bien, il y a quelque chose qui veut nous empêcher d'écouter la parole de Dieu, c'est très souvent le diable qui est en train de faire quelque chose. Comme on ne le voit pas, comme on ne l'entend pas, On ne pense pas à lui, on ne pense plus à lui. Il devient comme inexistant. Mais lui, il est là, il est bien là. La Bible en parle. Et j'aimerais prendre un autre exemple. Lorsque Jésus a commencé à annoncer qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et qu'ensuite on le prendrait et on le ferait mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour, à ce moment-là, il y a l'apôtre Pierre qui a pris Jésus à part. C'est incroyable, hein? Viens, Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Peut-être tu as... Je vais t'encourager là. Hein? À Dieu ne plaise, Seigneur, il a dit. Cela ne t'arrivera pas. Et immédiatement, Jésus s'est tourné vers Pierre et il a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et donc, Jésus a dénoncé tout de suite l'influence du diable sur Pierre. Il n'a pas accusé Pierre. Il s'est opposé à Satan, qui parlait, en fait, finalement, qui s'était servi de Pierre pour dire des paroles qui étaient contre la volonté de Dieu, contre Dieu. Il n'y a pas eu de grande lumière, il n'y a pas eu de phénomène paranormal, il n'y a pas eu de bruit bizarre, mais le diable était en train d'influencer simplement un homme à dire une chose qui était mauvaise, qui était contre la pensée de Dieu. Et derrière ce magicien d'Elimas, eh bien, on peut être sûr que eh bien, le diable était en train de s'opposer pour que Sergius Paulus n'entende pas la parole de Dieu, pour qu'il ne puisse pas comprendre, qu'il ne puisse pas croire et qu'il ne puisse pas être sauvé. Et il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu nous invite à considérer les réalités spirituelles, l'au-delà, tout ce qui est... Voilà, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui est pourtant bien là. Et il y a une importance à se préparer. Que ce soit pour celui qui ne le connaît pas, il faut se préparer parce qu'on va tous rencontrer Dieu. Ou que ce soit pour celui qui le connaît, hein, Jésus revient. On doit aussi se préparer. Dieu veut qu'on considère sa parole. Il veut nous ouvrir les yeux, il veut nous conduire à lui, nous conduire à sa lumière. Mais ça, ce n'est pas dans l'intérêt du diable. Alors lui, il cherche à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à ce que l'on puisse entendre, comprendre, croire et être sauvé. Le diable voudrait plutôt que on s'occupe de choses qui sont secondaires, mais qu'on les voit comme les choses qui sont les plus importantes, les plus primordial, les choses vraiment, mais c'est ça la vie. Finalement, nous faire croire que la vie, eh bien, c'est surtout s'occuper de son bien-être, s'occuper de son corps, s'occuper de sa maison, s'occuper de sa voiture, s'occuper de son téléphone portable, s'occuper de choses matérielles finalement. S'occuper, c'est vraiment le plus important. Et Dieu nous dit, mais le plus important, c'est d'abord vous occuper de votre relation avec moi. Et après, eh bien, toutes les choses secondaires découlent. On s'en occupe. Mais d'abord, occupez-vous de votre relation avec moi. C'est le primordial. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et toutes les choses viendront par-dessus. Elles suivront. Alors, le diable n'apparaît pas à un coin de rue, mais il le fait en nous suggérant des choses. Directement dans nos pensées ou indirectement par le moyen d'une personne comme Elimas ou comme Pierre. Et il y a une influence que les esprits mauvais exercent sur nous afin de nous détourner des choses qui sont précieuses, qui sont véritables de la Bible. Le diable ne veut pas qu'on entende la voix de Dieu, comme il ne voulait pas que le proconsul entende la voix de Dieu. Alors comment il le fait dans la vie quotidienne ? On pense par exemple à aller à l'église où on va entendre la parole de Dieu et soudain nous vient la pensée de faire autre chose, qui est une chose qui est plus importante, c'est le marché. Hein? On va rater des bonnes affaires au marché là, il y a des légumes qui ne sont pas chers, c'est vrai ils ne sont pas chers. Hein? La viande aussi, hein? C'est le marché. Ou bien c'est le sport du dimanche matin. Vous savez, sport c'est vraiment important, c'est un culte. Hein? Ou bien c'est le repos, ou bien c'est une sortie, profiter du soleil. Hein? C'est dimanche dernier, il ne faisait pas beau. Hein? Donc aujourd'hui, il fait beau. profiter. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bonnes. Hein. C'est très bien d'aller faire ses courses au marché. Mais il y a des choses qui sont meilleures. Et il faut mettre les priorités. Hein. Il y a des choses qui sont meilleures. Et puis après, eh bien, on s'occupe des choses qui sont bien, bonnes, sages, mais secondaires. Quand on n'est pas habitué à aller écouter la parole de Dieu d'une manière constante, il y aura cette pensée « Mais tu y es allé la semaine dernière. » C'est bon. Tu ne vas pas y aller quand même tous les dimanches. Hein. Non, hein. Une fois, c'est bon de temps en temps. Et qui va penser, mais c'est peut-être le diable qui est en train de me dire ça. Qui va penser ça? Non, simplement, on est là, on raisonne avec notre sagesse humaine, notre cœur. Hein, et Dieu nous dit de ne pas nous confier dans notre cœur, de ne pas avoir confiance dans les pensées de notre cœur, mais de nous confier plutôt en Dieu. Parfois, c'est la famille qui nous décourage. Mais tu vas rester avec nous quand même. Hein? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester avec sa famille parfois. Hein? Et il faut savoir être sage. Mais parfois, eh bien, le diable, il sait bien se servir aussi de nos proches pour finalement nous détourner vraiment un maximum des choses de l'Évangile. C'est la même chose quand on est chez nous. Vous savez qu'il y a l'Esprit qui nous dit « Lis ta Bible ». Et là, j'ai l'aspirateur à passer. Après, je n'aurai pas le temps de le passer. Et puis, il faut que je fasse mon linge. Et je dois préparer le repas. Les hommes vont se dire, d'abord, je vais regarder les infos. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur le net? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans le journal? Et vous savez ce que c'est, hein? Quand on remet à plus tard, ben souvent, le plus tard fait que ce n'est jamais. Hein. Pour ce jour-là, eh bien, on n'ouvre pas la Bible. Pour ce jour-là, on ne prie pas. Parce que, eh bien, on a remis à plus tard en se disant, ben, je le ferai cet après-midi. Ben, je le ferai ce soir. Ah ben, tiens, je ne l'ai pas fait. Alors, je ne dis pas que toutes nos pensées sont inspirées par le diable. Vous savez, notre propre cœur, et Dieu dit, hein, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Notre propre cœur est suffisamment tortueux et méchant pour nous détourner de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, des vérités de l'Évangile. Notre cœur nous conseille, hein, mais le diable y est aussi pour une part. Et parfois, eh bien, il sait bien s'introduire au bon moment dans notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat vraiment entre la lumière et les ténèbres. L'intérêt, l'enjeu, c'est le salut de notre âme. C'est la transformation de notre âme à l'image de Jésus-Christ. C'est ça l'enjeu. Et le diable ne veut pas que nous soyons transformés. Et Dieu nous attire et veut nous changer. Le diable voulait aussi empêcher Sergius Paulus d'entendre, de croire et d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Regardez ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul en Actes 26, versets 17 à 18. Actes 26, versets 17 à 18. Donc, c'est Paul qui rapporte sa conversion à Dieu, comment il a rencontré Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ lui a dit. Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et on voit que Dieu veut opérer quelque chose dans la vie de l'homme. Il veut d'abord ouvrir ses yeux. Ses yeux sont fermés, il ne voit rien, ses yeux du cœur, il ne voit pas. Il veut l'arracher aux ténèbres et le placer dans la lumière. Il veut l'arracher à Satan et l'amener dans son royaume, dans sa présence. Et on a besoin de vivre une délivrance. Dieu veut nous ouvrir les yeux, il veut nous délivrer de Satan qui lui veut nous maintenir dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans l'aveuglement, dans le découragement, dans l'éloignement de Dieu, dans la solitude. Ça signifie quoi ? Ça signifie que nous avons tous un choix à faire. Dans l'évangile de Jean, on lit « La lumière est venue dans le monde » et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Mais il est dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière » parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce qu'ils péchaient, parce qu'ils savaient qu'ils péchaient. Alors ils ont préféré les ténèbres, ils ont préféré l'obscurité. Du fait de leur péché, les hommes ne veulent pas venir à la lumière, pas toujours, pas toujours. Ils préfèrent les ténèbres. Il y a donc un choix à faire. Il y avait deux hommes. Il y avait le proconsul qui voulait écouter, il voulait recevoir davantage de lumière. Et puis il y avait Élimas qui lui faisait opposition à la lumière, qui avait envie de fuir la lumière. Il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Il ne voulait pas que Dieu l'éclaire sur son péché, sur son mauvais cœur. Mais si l'homme refuse la lumière, alors il y a une menace. C'est d'être plongé dans l'aveuglement, dans les ténèbres. C'est très clair dans la parole de Dieu. Celui qui choisit les ténèbres, il est plongé dans les ténèbres. Regardez Acte 13, 9 à 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, sur Élimas, et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Et il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est que celui qui refuse de voir la lumière, alors il est privé de la lumière. Celui qui préfère les ténèbres à la lumière, alors la lumière finit par s'éloigner de lui. Et quand la lumière s'éloigne, eh bien les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. On en a ici une illustration concrète avec Élimas, qui lui, eh bien, voilà, il était plongé dans les ténèbres physiques, il ne voyait plus clair, hein, il était aveugle. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, on lit quelque chose, je vous lis, que cet Satan va séduire les hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est intéressant ici parce que le verbe grec qui a été traduit par « recevoir », donc les hommes n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, il est très souvent traduit par « accueillir ». Accueillir la vérité pour être sauvé. Et l'un des sens, c'est celui de prendre avec la main. En fait, ceux qui n'accueillent pas, qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas en disant « oui, j'accepte la lumière dans ma vie », alors, eh bien, ils sont privés de la vérité. Ils ne verront plus la vérité. Il faut accepter, il faut accueillir la vérité qui nous est tendue, la lumière qui nous est offerte. Et celui qui le refuse, alors que se passe-t-il ? La suite du passage dit « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » C'est-à-dire que si on n'accepte pas la lumière que Dieu nous donne, on va être plongé dans les ténèbres et on va finir par croire des mensonges, des fables, des erreurs, des choses même absurdes. Parfois, on se dit, mais comment certaines personnes peuvent-elles croire certaines choses ? Mais si on refuse la lumière, après, on peut tout accepter. Hein. On peut attendre la fin du monde sur une colline. On peut construire des dômes et des statues. On peut faire des choses incroyables. Dieu plonge l'homme dans les ténèbres si l'homme ne veut pas recevoir la lumière. Il faut accepter la lumière. Ça signifie que l'homme est responsable devant Dieu. Il y a quelques mois, j'ai reçu dans le courrier une amende. C'était la première. Il faut un début à tout. Je roulais à 60 dans une zone industrielle où c'était limité à 50. Et alors, il y avait une gentille petite lettre, hein, vous l'avez peut-être reçue. dans laquelle il était dit que je pouvais contester l'infraction. Mais qu'est-ce que je pouvais contester ? J'ai mon permis de conduire, je connais les limitations de vitesse, je sais qu'en ville c'est 50, mon pied n'était pas collé à l'accélérateur, je pouvais lever le pied et rouler à 50, alors eh bien, j'avais rien à contester. Et j'ai payé. Et si l'homme est responsable devant Dieu, c'est qu'il a la possibilité de recevoir la vérité quand elle lui est présentée. Dieu éclaire l'homme par sa parole, par l'évangile, par la vérité. Et l'homme a la possibilité de dire, mais je veux cette lumière, je l'accepte. J'accepte de rester dans cette lumière. Que cette lumière me perce, qu'elle me transperce, qu'elle me révèle, qu'elle m'amène à la repentance, qu'elle m'amène à la foi. Je la veux pour ma vie. Nous sommes responsables. Dieu veut dévoiler notre cœur afin de nous guérir de notre cœur. Mais si on se cache et on ne veut pas de la lumière, alors Dieu nous laissera dans les ténèbres et on sera plongé dans des ténèbres beaucoup plus épaisses. Soit on accepte, soit on refuse. Mais celui qui la repousse, celui qui ne veut pas écouter Dieu et ce que Dieu a à lui dire, alors il s'attire un jugement contre lui-même. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Elle nous dit encore qu'il est la lumière. Dieu est la lumière et il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Aucune ténèbre en Dieu. Donc, vivre l'éternité avec Dieu, c'est vivre dans une pleine lumière, dans une parfaite lumière, dans une éternelle lumière. Vivre avec Dieu, finalement, c'est vouloir vivre dans sa lumière, dans sa présence. C'est vouloir que cette lumière, elle éclaire tout de notre vie. Elle purifie tout. Mais Dieu n'obligera personne à vivre dans sa pleine lumière. Si l'homme préfère le péché et l'obscurité des ténèbres, alors eh bien, c'est ce qu'il connaîtra. C'est son choix. Mais pour celui qui veut, Jésus a dit, « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière dans sa vie. » Il aura la lumière dans son cœur, il aura la lumière de la vie. La lumière, finalement, elle nous invite. La lumière veut nous sauver. Parce que Dieu nous aime, alors il nous a envoyé Jésus-Christ. Et rien n'empêchera Dieu de vous sauver, de vous purifier et de vous emmener dans sa parfaite lumière si vous vous accueillez, si vous recevez cette lumière. Si vous placez votre foi en elle. Pour finir, on peut voir que la lumière triomphe des ténèbres. Ce ne sont pas les ténèbres qui ont le dessus sur la lumière. Même si elles sont épaisses, très, très, très épaisses, la lumière triomphe toujours. Vous savez, il y a la fosse des Mariannes, 10 000 mètres de profondeur. Même dans la fosse des Mariannes, une lumière artificielle éclaire la nuit. Récemment, il y a la Société Nationale Géographique là, qui a envoyé un petit sous-marin avec un homme. Et aujourd'hui, avec toute leur technologie, ils ont pu descendre en 2h30, arriver à 10 800 mètres, quelque chose comme ça. Imaginez les ténèbres qu'il peut y avoir là, sous 10 km d'eau. Et plein phare, ils ont toute la technologie, les spots, en éclairant, ça y est, les ténèbres s'éclairent. Et c'est une lumière artificielle que l'homme a fabriquée. Imaginez Dieu qui met sa lumière dans la fosse des Mariannes. Mais tout est éclairé, il fait jour. La lumière de Dieu pénètre. Elle éclaire les ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé pour Sergius Paulus. Au verset 12, il est dit, « Alors le proconsul voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul avait déjà parlé au proconsul. Il avait commencé à lui expliquer ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Qu'il était venu d'en haut, du ciel, qu'il avait vécu une vie parfaite sur la terre sans jamais pécher, puis qu'il avait été arrêté, qu'il avait été crucifié, qu'il était mort pour les péchés, mais qu'il était ensuite ressuscité le troisième jour et qu'il était remonté au ciel et qu'il allait revenir pour payer, pour faire payer aux hommes le jugement de tous ceux qui refusent la lumière. Paul lui avait expliqué toutes ces choses. Et on peut imaginer qu'au milieu de ces explications, Élymas, à chaque fois, interrompait, contestait, disait « Non, non, on n'est pas sûr, c'est pas vrai. Mais non, les Juifs l'ont enlevé de sa tombe. Il n'est pas ressuscité. » Il contestait sans cesse, alors que Paul était en train d'expliquer que Jésus-Christ était mort pour lui personnellement. Mais Paul en avait suffisamment dit. Sergius Paulus, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ a versé ton sang, son sang, pour toi. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Et Élymas, de nouveau, de l'interrompre. Et là, Paul se tourne vers lui et lui dit cette phrase. Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Et là, le jugement est tombé sur Élymas. Il est devenu aveugle. Il n'en a pas fallu plus pour Sergius Paulus. Il avait entendu l'Évangile. Il était en train de voir une réalité des choses spirituelles. Il a cru dans son cœur tout de suite. Et si certains repoussent la lumière, d'autres l'accueillent, la reçoivent en eux. Et ce récit des Actes nous montre qu'on a tous un choix à faire. Personne ne peut rester neutre devant le choix. C'est le choix de l'intérêt pour la Bible ou bien de l'indifférence. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas prêter attention. C'est celui de l'acceptation de son message ou du refus, du rejet. C'est finalement celui de la foi en Jésus-Christ ou c'est le choix de l'incrédulité, du refus de croire. Et il faut choisir. Soit je désire la lumière de Dieu dans ma vie, soit je la fuis. Finalement, quand on réfléchit aux ténèbres, qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est simplement l'absence de lumière. Là où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est là où Dieu est absent. Dieu est lumière. Là où Dieu n'est plus, c'est ténèbres. C'est que ténèbres. En fait, les ténèbres, ce n'est rien d'autre qu'un endroit privé de la présence de Dieu. Dieu n'y est pas et c'est pour cela que c'est un endroit de ténèbres. Le prophète Ésaïe a dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et c'est une prophétie qui nous parle de Jésus-Christ. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est un prophète, Ésaïe, qui s'adresse aux Juifs. C'est Israël. Et, il faut se souvenir que pendant 400 ans, il n'y a plus de prophète. La voix de Dieu s'est tue pendant 400 ans. Mais soudain, une grande lumière vient. Cette lumière, elle est venue au travers du Fils de Dieu qui est né à Bethléem. Une lumière a resplendi. Elle est venue éclairer ce peuple qui était dans les ténèbres. Dieu est descendu vers eux. Mais quand Jésus a commencé son ministère public, alors tout de suite, il y a eu une séparation. Les uns accueillaient la lumière, ils se précipitaient, ils voulaient entendre, écouter. Et puis d'autres refusaient, rejetaient, contestaient, essayaient de s'opposer. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas accepté. Alors ils ont crié, crucifie-le. Mais il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu cette lumière, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné, Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils deviennent des enfants de Dieu. Le proconsul a cru, il a accueilli la lumière. Dans l'instant, il est devenu un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Et j'aimerais conclure avec un témoignage que j'ai entendu récemment. C'est un Algérien qui vivait dans les quartiers nord de Marseille. Petit, il était en contact avec l'Évangile parce qu'il y avait des jeunes qui étaient dans les rues et qui annonçaient Jésus-Christ aux enfants qui traînaient dans les rues des quartiers défavorisés. Donc, il a écouté pendant plusieurs mois et puis finalement, il a tout oublié. Avec l'adolescence, eh bien, ça a été la descente, délinquance, violence, et puis maison de redressement. Alors, ses parents ne voulaient pas qu'il aille en prison. Alors, ils ont fait venir un marabout. Et le marabout a commencé à lui faire boire des potions, à lui faire réciter des prières en arabe, faire toutes sortes de choses. Et cette personne témoigne, dit, c'était les ténèbres, c'était l'occultisme, c'était terrible dans la maison. Il y avait une chape dans la maison de ténèbres et rien n'y faisait. Continuer dans la délinquance, dans la violence. Et puis, il a rencontré un chrétien qu'il a invité dans une église. Et donc, il est allé dans cette assemblée et il a ressenti quelque chose de différent. Il connaissait les ténèbres. Il en sortait de sa maison et il a ressenti quelque chose de différent. Il y avait des chants, il y avait simplement des prières. C'est tout simple. Il y avait la parole de Dieu. Et sans savoir trop l'expliquer, quelque chose lui disait dans son cœur, c'est juste, c'est vrai, c'est bon, c'est la vérité. Et ses parents se disaient, l'islam n'a rien pu changer dans sa vie, les marabouts n'ont rien pu changer dans sa vie, c'est certainement pas Jésus dans une assemblée chrétienne. Mais il a cru, il a reçu la lumière. Il a dit à la lumière, mais entre dans ma vie, dans mon cœur, je confesse mes péchés, je reconnais, je suis coupable, j'ai besoin de toi. Et ça a changé sa vie. Christ est entré et il est devenu chrétien. Il était sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé la parole de Dieu éclairer son âme et il a tout accepté. Il l'a laissé entrer dans son cœur. Il a cédé son âme à Dieu. Il a cru dans le témoignage de la lumière. Quel est ce témoignage ? Quel est le témoignage de la lumière ? Et je termine sur ça. Le témoignage de la lumière, c'est que le Père a donné son Fils. Il l'a offert en sacrifice sur la croix, afin de nous pardonner nos péchés. Dieu veut nous pardonner nos péchés. Il veut nous donner la vie éternelle. Mais il est écrit, cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Est-ce que vous accueillez la lumière dans votre vie ? Est-ce que vous êtes prêt à confesser vos péchés ? Est-ce que vous voulez qu'il éclaire votre cœur ? Est-ce que vous voulez qu'il change votre vie ? Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous allons prier.